exactement 2 minutes après 11h. Nous sommes de retour dans le carrefour de ce samedi 8 février de l'année 2025, toujours avec mes invités. On s'était séparés tout à l'heure à la fin de la première heure sur l'organisation de compétitions de jeunes, et je pense que le directeur technique de l'Académie Planète Foot, monsieur Ediako, avait voulu prendre la parole, je crois, avant juste sinon j'enchaîne avec la prochaine question. Ça lui permettra peut-être de se souvenir. Ailleurs, il est organisé des tournois de détection auxquels les centres de formation togolais participent, mais il y a très peu de joueurs retenus. Quelle peut être la cause aussi? Là même, au niveau des tournois de détection un peu dans la sous-région, nos joueurs y participent, mais il y en a très peu, d'après nos informations, qui sont retenus.
Je vais parler toujours de l'Académie Planète Foot. Et 3-4 fois, il y a un collège d'agents de joueurs qui organise un tournoi de détection à Accra, que nous avons l'habitude de participer chaque année. Ils le font 2 fois dans l'année. Et chaque fois, quand on y va, vous allez voir, ils choisissent 5 à 7 joueurs de Planète Foot. Maintenant, le problème, on l'avait touché plus haut. Si tu vois chez nous, vous allez voir des joueurs nés en 2004, 2002, 2000 quoi. Mais chez les Ghanéens, vous allez voir des joueurs, c'est 2008, 2009, 2010. Mais maintenant, les agents nous appellent. Comment se fait-il que chez vous, vos enfants sont apparemment jeunes, mais sur le papier, ils sont vieux? Mais chez eux, ils sont vieux, mais sur le papier, ils sont jeunes.
L'Afrique a un incroyable talent, c'est tout.
Donc, finalement, ils sont toujours clairs avec nous. Ils disent qu'on ne peut pas faire avec vos joueurs, malgré qu'ils sont plus talentueux que ceux-là. Mais ceux-là auront une marge de progression par rapport à leur âge. Alors qu'eux-mêmes, ils savent que les joueurs-là sont plus vieux. Et en décembre passé, on a été en Côte d'Ivoire pour le tournoi TIDA. Et c'est un grand tournoi qui regroupe beaucoup d'académies de la sous-région. On a été. C'est comme ça, ils ont encore choisi 4.
Oui.
Mais jusqu'alors, on n'a pas encore de leur recours.
De retour. Mais comment on peut expliquer ça? C'est bien des tournois de détection de jeunes talents. Vous avez de jeunes talents, mais vous ne les prenez pas, vous prenez ceux qui sont plus vieux.
Non.
Quel est l'objectif?
Apparemment, ça, oui. Apparemment, ils sont vieux, mais le papier dit que l'enfant est jeune. Toi, tu ne peux pas dire qu'il n'est pas né l'année-là.
Oui, ça, c'est du côté des autres, ça. Mais les nôtres, ils sont jeunes, non?
Oui, moi, je peux comprendre, parce que quand on prend, par exemple, le test IRM, le test IRM ne se fait qu'au niveau des
U17. Des U17, oui.
Une fois que tu arrives à franchir le cap des U17 en IRM, c'est que c'est fini. C'est bon pour toi. Donc, si le joueur est vieux, mais sur le papier est jeune, et arrive à franchir heureusement le cap des U17 en test IRM, c'est qu'il a une carrière jeune devant lui. Okay. Donc, quand on voit ces genres de joueurs, je pense qu'ils sont plus marketable et vendable que les joueurs togolais, parce que c'est un palmarès aussi. Peut-être les joueurs ont été retenus, mais là ils vont enquêter. Est-ce que les talents togolais sont plus vendus à l'extérieur, et ils vont remarquer que malheureusement les Ghanéens, les Sénégalais, les Maliens sont plus vendus, intéressent plus les clubs européens ou sud-africains que les togolais. Je pense que c'est là où ça bloque un peu. Parce que le marketing autour des joueurs n'est pas assez ça. On ne met pas en valeur la communication. Moi, je crois qu'il faut aussi aller à cette école de communication où il faut mettre en lumière les joueurs. Quand on prend CDF Akounou, ils sont en train de faire du bon boulot, mais c'est tout un ensemble. Quand on prend même la FTF, en termes de communication, il y a eu une évolution en termes de communication. Mais il faut encore accentuer. Et moi, je dis qu'il faut aussi aller à la ligue professionnelle, parce que la FTF ne peut pas tout endosser aujourd'hui. C'est la FTF qui fait tout en termes de football national. Mais il faut une ligue pour pouvoir soulager cette FTF qui sera plus concentrée sur les équipes nationales, et la ligue qui va plus faire la promotion du football à la base. En tout cas, il faut vraiment qu'on aille à cette école de tournoi de jeunes.
Absolument. Les pépites s'exposent déjà dès l'âge de 16-17 ans dans la plupart des pays. Mais chez nous, ce n'est qu'à partir de 22 ans qu'on voit certains talents exploser.
Ouais, comme je l'avais dit, parce qu'on n'a pas de championnat de jeunes qui peut permettre aux jeunes d'être compétitifs. Ils trouvent de la compétition en jouant le championnat, peut-être 3 à 4 ans. Mais en jouant le championnat 3 à 4 ans, tu vois le joueur a déjà 26-27 ans.
26-27 ans.
Pas, mais si à partir de 15-16 ans, il jouait déjà les championnats des jeunes, après jusqu'à 18-19 ans, il sera guéri, mûri pour que tu puisses... le transférer, mais à partir de 26-27 ans, ça devient compliqué. En plus, le DT avait dit que Planet Foot va jouer des compétitions. Mais vous avez dit que pourquoi nos académies n'arrivent pas à s'imposer là-bas? Parce que là-bas, eux, avant même de venir jouer le tournoi, eux, ils étaient déjà même en compétition. Mais nous, c'est ici, ça. Combien de compétitions on joue ici? Ce n'est pas que...
Les tournois entre académies.
Des tournois. Mais championnat et tournoi, il y a beaucoup de différences. Donc, peut-être que. Et même le tournoi qui sont allés jouer en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la fédération qui a organisé. C'est un district. District d'Abidjan.
Oui.
Donc, vous voyez un peu. Donc,
la différence, oui. Voilà. Oui, mais en tout cas, comme le disait Edem Atipoué, c'est vrai, il faut aller vers la scission entre la fédération et la ligue professionnelle. Mais déjà, quand on voit les relations entre la fédération et les ligues, les problèmes que ça, les ligues régionales, les problèmes que ça crée, si vous mettez une ligue de football professionnelle, vous allez multiplier les problèmes par quatre. En tout cas, on espère qu'on n'arrivera pas là, mais moi, je suis très, très sceptique, hein, parce que le Togolais n'est pas humble. C'est une question de pouvoir. Je dois tout prendre, je dois tout m'accaparer, rien pour les autres. Et ça... ça ne peut pas faire avancer le schmilblick, comme on dit. Alors, Paul Yeboah, vous avez bien fait de prendre la parole, vous la gardez. Le public accuse également les agents qui travaillent avec les joueurs ou joueuses de n'avoir pas un bon carnet d'adresses. Et quand un joueur togolais quitte le championnat togolais, c'est pour l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Jordanie ou autre. Et même lorsqu'ils réussissent à s'expatrier, ils ne font pas long feu. Richard n'en est déjà de retour à Lomé, non ? Bon, alors, comment vous, agent de joueur, vous pouvez expliquer ça?
Ouais, je peux dire.
Je commence par vous, hein, oui, parce que vous êtes le premier indexé.
De facteurs, il ne faut
et
pas...
les autres peuvent vous tirer dessus, vous allez vous défendre ici. Ouais. Feu vert pour les coachs.
C'est là. Je commence. Je pourrais dire que nous sommes dans un domaine sur le football et nous sommes dans un marché. Les Ghanéens envoient leurs joueurs, les Nigériens, les Ivoiriens. Et toi aussi, tu envoies un joueur togolais. Donc, ils vont jauger. Même arriver dans leur club, si toi tu es togolais et que premièrement les joueurs qui vont là-bas, ils jouent peut-être en équipe nationale, mais quelle équipe nationale du Togo, vous n'arrivez même pas à se qualifier, tout ça là. Donc ça cause un peu de problème. Il y a aussi le problème de l'image. Et en plus, il y a aussi beaucoup des intermédiaires, des agents qui n'ont pas de licence, qui peuvent juste appeler. Et voilà. Mais si tu travailles avec un agent qui est licencié, il connaît les termes, il sait si, mais par exemple, tu peux aller dans, par exemple, les Arabes, ils peuvent résilier ton contrat comme ça. Mais si tu travailles avec un agent qui connaît bien les rouages, il sait que là, même s'il te résilie, tu vas prendre tout ce que.
Une indemnité.
Donc, il y a beaucoup de rouages. J'aimerais voir ce qu'ils vont.
Quelle question ils vont te poser? En tout cas, le coach, allez-y seulement.
je pense que c'est aussi un des facteurs dans ce système de transfert. Mm-hmm. Et moi, je dis, il y a beaucoup d'agents véreux aujourd'hui. Il y a même des agents licenciés, mais qui sont véreux. Je m'explique. Moi, plus de 4 fois, il y a eu des contrats où il y a eu des positionnements où le joueur peut partir et l'agent prend les offres du joueur, ce qui lui va. Il va proposer le triple au club. Le club refuse, le transfert n'aura jamais lieu. Moi, j'ai eu ce cas plus de 4 fois où c'est après que le joueur s'est rendu compte qu'en réalité, l'agent demandait le triple dans son dos. Par rapport à ce que lui proposait. Et ça, moi, je dis qu'à un moment donné, des agents, des yeux plus gros que le ventre à un moment donné, et il faut que cela cesse. Je ne sais pas dans quel système, en termes de suivi, les agents sont par rapport à la FTF, mais je crois qu'il faut vraiment que les agents aussi fasse du sérieux dans les négociations. Parce qu'il y a des négociations qui peuvent aboutir, mais les agents cherchent plus. Donc peut-être qu'il est là, il va me dire les raisons qui font que les agents demandent plus que ce que le joueur veut. Peut-être que c'est le joueur qui ne se vend pas cher et qui veut le vendre plutôt le joueur cher, ou c'est carrément l'agent qui veut faire du surenchère.
Oui. Avant que lui-même y réponde, ce n'est pas pour le défendre, mais je connais un dossier un peu qui ressemble à votre question. Des fois, il y a des agents qui n'expliquent pas tout aux joueurs, parce qu'il y a des modalités que on ne doit pas dire aux joueurs. Lui, c'est d'aller jouer, si son contrat est à faire confiance à son entraîneur. Je prends l'exemple de mon frère Sadik Koubaja, quand il était allé en Suisse avec Gauthier Gullet. En partant, le coach Tchanile Tchakala là, lui avait appelé à l'époque, lui parlait, il disait qu'il va lui donner juste deux petits conseils afin qu'il puisse réussir son test. Premièrement, à chaque fois qu'on te fait la passe, fais un contrôle devant et tu donnes. Parce que si tu veux faire un contrôle sur place, les blancs, ils vont vite, ils vont te l'arracher. Deuxièmement, avec ton agent, une fois qu'on t'amène le contrat, signe, ne lis pas. Sadik a dit ah bon, il dit oui, c'est le conseil que je peux te donner. Arrivé le jour là devant Güler, le contrat est arrivé, Sadik prend, il ouvre, maintenant il veut signer, Güler bloque sa main, il dit tu lis pas? Il dit non, je te fais confiance. Güler dit non, il dit non, je te fais confiance. Güler était vraiment étonné. Et là il a signé, ce qui a fait, ce qui son droit lui est revenu, ce que Güler, j'apprends, il a pris. Et Güler a dit qu'il va le, il va pas le laisser. Il ne va pas le lâcher. Et c'est comme ça qu'ils ont travaillé sur une longue durée. Et un autre exemple, sur Mani Sapol, quand il était en Libye. Mm-hmm. Au moment du recrutement, il y avait un poste vacant. Et ils étaient deux joueurs. Il y a Mani Sapol, Togolais, plus un Brésilien. Donc, l'agent du Brésilien est allé voir l'entraîneur principal. Il lui a proposé une somme. 30%, je pense. Quelqu'un est venu dans le dos pour avertir l'agent de Gotelib, l'agent de Mani Sapol. Il est aussi retourné aller faire la même proposition à l'entraîneur. Du coup, l'entraîneur est retourné voir le président du club, que, vu que le championnat serait long, vu qu'il y aura les Coupes de la Libye. Et si on prenait les deux? Et c'est comme ça que les deux ont pu signer le contrat. Donc, je voudrais juste dire que des fois, le manager a tendance à donner quelque chose à certains entraîneurs, je ne parle pas de tous les entraîneurs, pour pouvoir prendre son joueur. Donc tout ça là, il doit inclure ça dans son argent. Parce qu'il ne peut pas dire au joueur que non, je vais donner l'argent à l'entraîneur, parce que le joueur, une fois qu'il sait que l'entraîneur est payé dans son argent, il ne va pas le respecter, il ne va vouloir se donner. Donc l'agent est obligé de couvrir cette partie. Bon, c'est ce que je connais un peu. Comme il est là, il peut encore enchérir. Merci.
Bon, merci pour vos questions. Je pourrais dire que ce que vous avez dit, ce sont des magouilles autour de c'est ça qui fait que aujourd'hui, quand on parle d'argent, les gens ont des illusions sur l'argent. Actuellement, la FIFA a des règlements sur les agents et je peux vous dire que même pour prendre sur le salaire d'un joueur, c'est 5%, 600 et ne dépasse pas 200 000 $. Donc, il va falloir aussi faire des formations aux joueurs. Pour les expliquer tout ce que les droits d'un agent, les devoirs d'un agent. Et tout ce que vous avez dit, ça se fait, mais c'est illégal. Donc je ne veux pas développer.
Sur ce chemin, tout ça c'est commercial. Hein,
légal, c'est pour cela que l'agent ne peut pas expliquer. Voilà. C'est parce que ce n'est pas légal.
C'est le tamer.
Voilà. Moi, ce n'est pas une question. Vous voyez, ici au Togo, moi, quand on dit qu'il y a un agent de joueurs, par rapport à certains agents que moi, je connais, et je dirais que les agents de football du Togo, et je ne sais pas s'ils atteignent 3. Par exemple, Karim Deman, avant qu'on ne le recrute, et ils sont allés jouer U20 au Bénin. Et le groupe City. Il y a un groupe d'agents de joueurs qui travaillent pour City. Manchester City. Donc le groupe City l'a repéré. Lui, Doké Josué et puis Lukou Francis, ils étaient trois. Et après le tournoi, les agents là sont venus vers nous ici à Lomé. On a parlé. Maintenant, eux ils ne signent pas pré-contrat. Eux ils suivent le joueur. Maintenant, le joueur habite où? C'est eux qui lui louent l'appartement. C'est eux qui lui donnent à manger. Téléphone. Godasse. C'est tout ce que le joueur a besoin. Les agents là ont fait ça jusqu'à 2 ans. Mm-hmm. Avant que Derman ait 17 ans pour aller au test avec Lukou Francis.
Ok.
À Feyenoord. Moi, je ne vois pas un agent togolais qui peut faire ça.
C'est clair.
Et maintenant, quand ils sont allés à Feyenoord, Lukou Francis, lui, il avait une blessure. Ils sont revenus. Et il devrait atteindre 18 ans avant d'aller signer. Mm-hmm. Étant donné que nous, on l'avait déjà placé à Wafa, au Ghana. Il est revenu. À Wafa, là-bas, il joue compétition chaque fois. Donc, il est allé, il a joué. Il a 18 ans, il est retourné pour aller signer.
Oui.
C'est après la signature. Mais avant ça, l'agent payait 250 000 à son papa chaque fin du mois. Mm-hmm. Jusqu'à les 2 ans là sont passés.
C'est comme un investissement.
Voilà. C'est le pourquoi, par exemple. Quand par exemple, un agent te fait ça, si on te donne de signer, tu vas lire quoi?
Là, c'est une institution.
Tu vas lire quoi? Tu signes. Parce que tu sais que le gars a investi sur toi.
Investi, oui, c'est un investissement. Ouais.
Maintenant, dans ça, là, Planète Foot en gagnait aussi.
D'accord.
Vous allez imaginer, ça y est, le budget que
cela représente.
Voilà. Donc, c'est pour dire que si ici, on parle qu'il y a agent, eux, ils signent avec les joueurs et ils attendent que le joueur même signe quelque part, puis ils viennent brandir leur papier et puis ils prennent l'agent.
Bon, moi, je vais rebondir.
Allez-y, c'est bon, intéressant.
C'est ce que moi je fais et je suis un peu contraire à ce que les gens pensent parce que moi, actuellement, je suis plus focus sur les jeunes. Moi, je ne mets pas l'argent devant. Vous pouvez voir que j'ai même amené un jeune à Solos. Il a 12 ans. Je l'ai trouvé, il jouait. L'autre fois même, je suis allé à Palimé, j'ai encore trouvé un jeune de 14 ans que je vais encore amener à Solos pour des détections. C'est ce que moi, je sais, avant de rentrer dans ça, je sais que les gens pensent, quand on dit agent, c'est l'argent, je sais. Mais il faut aussi investir dans le jeu.
Il y a une ère de différence.
Donc, moi, c'est ce que moi, je me suis mis dans la tête. Je me suis dit, moi, je vais me concentrer sur les jeunes parce qu'au Togo, il y a plein de talents, mais si on les met dans de bonnes conditions, par exemple, à Planète, à Swallow, à FSA, on peut avoir beaucoup de choses. Donc, si c'est sur ce côté-là, ne vous inquiétez pas, moi, je vais miser sur les jeunes. Et ce que vous êtes en train de dire par rapport au groupe City, eux, ils savent que même si après 2 ans, ils vendent le joueur, si c'est même 1 million d'euros, c'est beaucoup, hein. Il y a beaucoup d'argent dans le football. Donc, eux, ils savent. Est-ce que le Togolais sait qu'il y a de l'argent dans le football? Les indemnités de formation, tout ça. Mais donc, eux, ils savent. C'est ce qu'ils font. Mais au Togo, combien de keep ou bien de centres... combien d'argent qui a les moyens pour faire ça à un jeune? Donc, là, nous sommes en train de venir. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans 5-6 ans, on va sortir le meilleur jeu du Togo.
On vous attend.
On vous attend. Maintenant, il y a l'autre partie de la question à laquelle vous n'avez pas encore répondu. Hein, ces joueurs, mais ils arrivent à partir, mais ils ne font pas long feu. Pourquoi ils ne font pas long feu?
Ils ne font pas long feu parce qu'avant de partir, même, ils n'étaient pas compétitifs. C'est ce que je dis. Ah. Voilà.
C'est vrai. Moi, j'ai toujours en mémoire Richard Nan. Et moi, c'est un joueur. Ouais. C'est un talent brut.
Moi-même, j'étais déçu quand Richard Nan a joué le Chan. Oui. Même les médias parlaient de lui. Oui. Mais pourquoi il n'a pas pu signer en Europe? Moi, je me suis dit, si Richard n'a rien trouvé, au moins c'est D2 Belgique. Mais je lui ai vu signer en Guinée.
Mais c'est déjà un tremplin. Moi, non, même Guinée, les Salou Bachirou sont passés par
oui,
le Cameroun.
Mais Guinée, mais à quel âge?
Ça ne doit pas être.
À quel âge?
Ça ne doit pas être dévalorisant.
On ne doit pas comparer la génération là avec la génération de Salou Bachirou.
Ah bon?
Parce que Richard Nani, il est parti avec un âge déjà avancé que les Européens ne prennent pas.
Ah bon? Tel qu'on le voit là, il a déjà un âge avancé.
Ouais. Ouais. Il y en a plein aussi à Lomé.
Imaginons en ce temps s'il avait peut-être 19, 20 ans. Voilà, aujourd'hui, il va jouer à AC Milan, mais bon.
Ouais. Même Tchakei Marouf, moi, lui aussi, il me déçoit un peu.
C'est toujours l'âge.
Parce que c'est toujours l'âge. Hein.
Ouais.
Bah, donc on a
même déjà... il y a un joueur que moi je suis, il est à ASK, il a joué à Dito, le capitaine de ASK.
Et le milieu de terrain.
Le milieu de terrain.
Il est à
Amekoudi. Amekoudi, c'est un très bon joueur, mais. Oui.
Ah non, il est avancé en âge. Ah,
voilà.
Lui aussi, il est
c'est,
avancé.
Vraiment, c'est un bon joueur.
Amekoudi Amekoudi doit avoir 27 30, ou
33
20,
ans, j'ai vu. Ah, 33 voilà. ans, mais.
C'est avancé.
Ben d'accord, ce qui m'inquiète aussi c'est qu'autour de nous cela semble marcher. Alors comment les clubs des autres nations comme le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire font pour transférer autant de joueurs de leur championnat ou centre de formation vers les clubs français, anglais, autrichiens ou belges?
Je peux dire que les questions sont différentes, mais c'est toujours la même réponse.
Mmh. Ouais. Mais je veux que vous trouviez autre chose.
Ouais. Parce que le coach Kokoué Diakou l'avait dit en amont que quand ils étaient allés au Ghana, on voit sur le papier les Togolais qui sont âgés, mais en visage, en forme, ils sont jeunes. Et le contraire chez les autres. Donc c'est pareil avec les autres pays. Donc on ne peut plus polémiquer.
On ne peut plus polémiquer, mais même ceux qui sont déjà dans les autres championnats, ce n'est plus l'âge.
Vous savez, je pense qu'en début d'émission, le DT a résumé.
Oui,
c'est une question de priorité nationale.
Oui.
Dans certains pays, il y a des joueurs même dont l'identité n'est pas déclarée, les jeunes. Et l'État est au courant. Parce que l'État sait que ces centres de formation sont une richesse pour le pays, pour l'image du pays. Et c'est arrivé à un certain âge qu'on sait vraiment l'âge de tel joueur. Et ça, c'est en complicité avec l'État. Ces enfants fréquentent, hein, ils vont à l'école.
Ouais.
Mais
en complicité avec l'autorisation de l'État.
Oui, oui, si on veut être clair sur les termes.
Avec l'autorisation.
En accord avec l'État.
D'accord, voilà. Avec
voilà.
Oui.
Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut aller à cette table de négociation avec l'État? C'est compliqué. Parce que déjà, il faut avoir la naissance, la nationalité, gravir les échelons. On est dans un système éducatif. Mais c'est est-ce vrai. Qu'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation sait qu'il y a nécessité d'aménager ou de ménager certains élèves pour pouvoir véritablement aider le pays demain?
Oui.
C'est une question de mentalité.
Je vais vous raconter une histoire. Quand le Togo s'est qualifié pour la première CAN, le match retour à Accra en 72, je crois que c'était Haïté Gant ou bien un autre joueur là qui devait aller à la première partie du bac. Le lendemain, le lundi, qui devait suivre le dimanche où on est parti jouer à Accra. Et le ministre de l'Éducation nationale de l'époque est allé voir le président de la République pour demander une dérogation pour ce joueur-là, pour qu'il puisse voyager. Il est voyagé, on s'est qualifié, c'est à son retour qu'il a passé sa session de bac, lui. Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui?
Oh, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui vivent, qui sentent le football, qui vivent le football et qui parlent le langage du football.
Mmh.
Ils peuvent le faire aujourd'hui, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est à cette priorité?
Oui.
Aujourd'hui, je pense que la priorité du Togo aujourd'hui, ce n'est pas le football.
Est-ce que le joueur même est connu?
Nous,
on va aller négocier pour lui.
C'est ça, nous, acteurs du football aujourd'hui, ça dit, nous le faisons par pure passion. Pas parce qu'il y a une grande matière dedans. Sinon, je pense qu'il y a beaucoup de centres de formation qui iront investir au Ghana ou au Bénin. Mais ils ont préféré le Togo parce qu'ils ont espoir que ça marche. Mais quand on n'aura pas des décisionnaires qui sentent cette priorité, je pense qu'on va poser mille et une questions, mais on reviendra toujours à la même réponse.
La même réponse, oui.
Moi je dirais aussi que ce que le journaliste vient de dire, il a dit vrai. Maintenant, le problème est que les joueurs togolais, aujourd'hui, ils ne vont même plus à l'école.
Oui.
C'est ça qu'ils ont pris comme métier. Maintenant, à part le foot, ils ne feront plus quelque chose. Si on leur interdit ou bien on leur refuse aussi ce papier qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils seront à la rue.
Oui.
Quand même, on refuse. si on le leur faisait, maintenant on trouvera aussi des professionnels. Mais on refuse ça aussi. Quand bien même que les joueurs là sont convoqués en équipe nationale, hein, ils attendent le passeport là pour pouvoir jouer. Étant donné qu'ils ont changé l'âge, ils disent on ne veut pas faire. Maintenant, quand on ne fait pas, le joueur ne va pas jouer. Ils seront obligés de chercher quelqu'un qui n'est pas aussi compétent que lui pour défendre la nation. Donc, nous défendons la nation maladroitement. Vous voyez, c'est des trucs qui. Bon, mais c'est pas. Nous, on va dire ça ici. Oui. Est-ce que ça va changer?
Bon, disons que ceux qui ont cette responsabilité là aussi, je crois que c'est un règlement ou une règle qui est appliquée à tous les citoyens. Donc ça va être vraiment une dérogation spéciale, ouais, qu'il faut négocier pour avoir. Et ça dépasse, à mon sens, nos niveaux ici. Comme bien, ça, nous, on va clair. En parler, mais c'est vrai, des questions de sécurité et puis avec tout ce qu'il y a comme blanchiment d'argent, terrorisme.
Parce que ça rend dans l'illégalité.
Oui, oui.
C'est pas que nous encourageons la triche sur l'argent.
C'est ça.
C'est pas qu'on encourage ça. Mais il y a des trucs qu'on peut faire exceptionnellement. Peut faire
voilà, moi, je ne pense pas qu'on doit faire.
Pas la face.
Non, on ne doit pas de la faire triche. C'est la triche. C'est la triche. Ça ne doit pas se faire.
Je dis.
Trouvons un autre moyen.
Ok. Ouais. Le moyen, le jeu. À 15 ans, détecter les jeunes.
Le micro.
Détection, voilà.
Le moyen le plus simple, c'est d'aller à la détection
très tôt.
Très tôt. Même le visa, le joueur. À les papiers, c'est arrivé à plusieurs joueurs en équipe nationale. Je ne vais pas donner de nom. Même le joueur a son passeport, l'âge, d'accord. Même le visa pour qu'on aille en stage en France, il faut négocier pour que ce joueur ait le visa.
Oui, non. Donc l'État a déjà fait sa part alors.
Quand?
On ne va pas donner d'exemple. Il y a des joueurs, des internationaux, qui devraient avoir le visa, mais qui ont été bloqués. Et il faut peut-être des coachs ou des joueurs plus UP que pour pouvoir aller négocier des visas. Et ça arrive dans ce pays beaucoup de fois. Moi, je dis, on ne prône pas la triche sur l'âge.
Oui.
Mais on dit, à un moment donné, il faut sentir le football et faire du football. On ne fait pas du football, c'est en ce sens. Personne ne fait l'apologie de la triche. Ni d'encourager les enfants à ne pas aller à l'école. Non, ce n'est pas ça. Il faut aller à l'école, il faut étudier, apprendre un métier en plus de la carrière de sportif. Maintenant, quand on embrasse cette carrière, il faut quand même que les décideurs puissent quand même faire de la jurisprudence à un moment donné. Il y a la règle, mais la jurisprudence aussi fait des fois que on voit la règle, mais on applique la jurisprudence. Mais des fois, il faut aussi appliquer cette jurisprudence.
Oui, coach Koubaya Touré, Wakil, vous vouliez parler de la parole tout à l'heure.
Oui, je voudrais renchérir concernant l'âge, affaire d'âge, oui. Parce que une fois qu'un enfant est né, son âge a déjà déclenché.
Oui.
Donc, ce n'est plus à l'autorité ou bien à ses parents d'arrêter son âge, l'âge. Et l'autre, il avance. Donc, à nous, les entraîneurs, de savoir comment détecter les joueurs. Et le confrère management vient de le dire, si le joueur a été vite détecté et on veut faire vraiment un suivi, à nous de savoir comment le faire progresser, comment le faire développer, non seulement le talent, mais sa morphologie aussi, afin qu'il puisse devenir quelque chose pour le pays. Mais parlant d'âge, je ne vois pas que ce serait une bonne solution.
Parfait. Comme on l'a remarqué vers le milieu de l'émission également, ce problème n'affecte pas seulement les joueurs du cru local, même nos binationaux peinent à émerger. Pourtant, ils sortent des meilleurs systèmes de formation. Nos joueurs qui sont à l'étranger, eux aussi, n'arrivent pas vraiment à bouger. Je veux parler de Lilian Brassier, par exemple, qui est un exemple qui demeure. Lui, il a été joué là-bas, il est français mais il est d'origine togolaise. On a vu comment il a été traité sur le marché des transferts. C'est vrai que lui n'a pas été performant. Il y a Evra Agbagno, tout ça. Il y a même un exemple qui va peut-être vous faire réagir, le tout dernier en date, celui qui est parti en MLS, notre attaquant vedette Kevin Denke, 23 ans, il va en MLS. Est-ce que c'est son âge vraiment bien lui-même? Il sait qu'il a 37 ans, mais je pense que c'est 23 ans parce que lui il est né là-bas déjà. Ou bien il est né au Togo. Je vous laisse la parole. Agent de joueur, entraîneur, question Fra.
Moi, je ne voudrais pas qu'on parle des questions d'âge. quelqu'un qui te dit qu'il a 23 ans, c'est qu'il a 23 ans.
Ok.
Voilà. Mm-hmm. Ne cherchons pas à chercher et à vouloir voir pourquoi. Non.
Non.
Il dit qu'il a 23 ans, c'est qu'il a 23 ans. Oui. Sinon, okay. S'il n'avait pas 23 ans, l'autorité ne pouvait pas lui signer son passeport.
Absolument.
Voilà.
Mm-hmm. Maintenant, il quitte la Belgique pour se retrouver en MLS.
Aujourd'hui, on peut dire que le football est une science. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Mm-hmm. Donc, si on ne s'entretient pas bien, s'il y a beaucoup de choses, si on n'arrive pas à les réunir, on ne peut pas faire carrière, on ne peut pas aller loin, c'est dans l'obligation. Les conditions vont t'obliger à ne pas progresser. Mm-hmm. Donc, avant, le Togolais pense que c'est la chance. Au lieu de s'entraîner, au lieu de bien manger, au lieu de vouloir récupérer, il va aller à l'église, il va aller à la mosquée pour aller prier. Bon, tout ça là, c'est juste des accompagnements. Mais aujourd'hui, le football, c'est une science où il faut savoir comment vivre, mm-hmm, afin d'arriver.
Hygiène de vie, ouais, tout à fait. Et tout ça. D'accord, Paul Yeboa, pourquoi, ou bien c'est parce qu'il n'a pas un bon agent de joueur qui s'est retrouvé à MLS à 23 ans.
Ouais, c'est ce qui.
Là où les gens vont à 40 ans.
C'est ce que les gens disent souvent, c'est l'agent du joueur qui n'a pas fait son travail.
Mais oui.
Il faut savoir que Kevin Denke, Monaco était sur lui, mais après j'ai vu que Monaco a signé un jeune à 20 millions. C'est là que je me suis posé la question, mais pourquoi Kevin, qui a été meilleur buteur, n'a pas pu signer bon, c'est là, moi, je peux dire ça, je vais laisser le côté d'agent, mais je peux dire que c'est aussi le poids de l'équipe nationale qui le suit, peut-être. Sinon, Kevin, au moins, pouvait jouer en Espagne ou en Ligue 1.
Mais là, non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas le poids de l'équipe nationale. Kevin est ballon d'or ou bien soulier d'or en Belgique. Mmh. Il est meilleur joueur, même en Conférence Ligue qu'on joue actuellement.
Vous savez,
il était le meilleur joueur, le meilleur passeur. Avant de partir là-bas.
Ah, il est meilleur passeur. Est-ce que le joueur... il y a des clubs qui peuvent venir et puis proposer quelque chose qui n'est pas à la valeur de Kevin. Mais voilà.
Donc c'est une question d'argent.
Oui, ça peut rentrer.
Il a préféré l'argent par rapport à la carrière.
C'est ça. C'est un choix financier, non un choix sportif. Ok, les mauvaises langues disent qu'ils disent que maintenant il va pouvoir lui aussi conduire Range Rover. Bon, bref, ça c'est les mauvaises langues qui disent ça. Nous on fait notre boulot, on va aux informations. On va aux informations. Alors, maintenant on a remarqué que, à part lui, d'autres Togolais aussi qui sont des binationaux n'ont pas été performants sur le marché des transferts. Un dernier mot là-dessus, et puis je vais vous donner, on va écouter la réaction de Flora Kataka là-dessus. Encore une réaction par rapport à ce sujet?
Bon, je pense que quand, en période de mercato, pour des joueurs qui sont déjà confirmés, qui sont internationaux, on ne peut pas forcément coller l'étiquette du pays, pas forcément, parce qu'ils ont déjà prouvé leur valeur. Maintenant, est-ce que les propositions que les joueurs ont eues répondent à leurs attentes?
Oui.
C'est aussi ça.
D'accord.
Maintenant, est-ce que ces joueurs, même si c'est la proposition répond à leur attente, est-ce qu'ils veulent vraiment ce challenge dans leur carrière? Ils voient ça aussi, parce que s'il faut aller signer quelque part où toi-même tu es conscient que tu ne peux pas relever ce challenge, tu préfères aller dans un club où tu es libre. Je pense que ce n'est pas forcément l'image du pays qui suit jusqu'alors le joueur, mais c'est le choix sportif, le choix d'avenir et la valeur marchande qu'on propose.
Parfait. On va écouter Florent Kataka.
Pour ceux qui sont à l'étranger, est-ce qu'on va faire un lien entre les joueurs togolais nés au Togo, qui ont vécu au Togo, qui ont grandi au Togo, qui ont été formés au Togo, qui essaient de partir, et quand ils partent, la manière dont ils réussissent ou pas, ou qui n'arrivent pas à partir, leur niveau, leur cote, et aussi les joueurs togolais nés à l'Hexagone, nés ailleurs, qui ont été formés dans les règles de l'art et qui essaient aussi d'évoluer donc dans ces championnats-là, qui ont plus d'avantages que ceux qui sont nés au Togo, bien entendu. Faire cette analyse-là serait un peu compliqué. Si nous allons dans ce sens, c'est comme si on veut prouver que si les joueurs togolais n'évoluent pas, c'est à cause donc de notre mentalité ou bien de notre culture ou de nos traditions. Je ne suis pas sûr que mon frère Gavon Loïc, qui vit en France depuis des années et qui a eu ses enfants en France, éduque ses enfants exactement comme mon frère Komi Koku qui est né au Togo. C'est vrai que la culture nous suit, un peu une certaine mentalité, mais on ne peut pas faire cette comparaison. En tout cas, moi, je ne vais pas m'y risquer. Donc, je pense bien que si ceux qui sont en Europe, eux aussi n'arrivent pas à évoluer, je pense que cela peut être dû à des facteurs non maîtrisés et je n'arrive pas à faire moi un lien direct. Tout ce que je sais, c'est plutôt pour ceux qui quittent ici et qui arrivent déjà là-bas, pourquoi ils n'arrivent pas à titiller le sommet? D'abord, c'est pour la base de la formation. Si la formation elle est mal faite, même si on leur trouve des talents, il y a des insuffisances qui font qu'ils n'évoluent pas beaucoup. Il y a beaucoup qui ont quitté ici, qui sont partis, mais ils n'ont pas fait long feu. Très souvent, ils reviennent. Ces dernières années, tous ceux qui ont pu quitter ASK, ASCO, etc., non seulement ils vont dans les championnats pas très huppés, mais ils reviennent aussi très souvent. La faute à la formation de base. La faute aussi à une certaine mentalité. Là, je peux parler de mentalité parce que tous ceux qui ont vécu ici, nous, Togolais, je peux me risquer à cette analyse, on se contente parfois un peu du peu. Ok, j'ai déjà réussi. Ok, on me voit. Il y a qu'à voir comment parfois ils s'exposent sur les réseaux sociaux. Et dès leur départ, ok, je suis arrivé, je gagne 2 000, 3 000 euros, je reviens en vacances, et si j'ai encore la chance d'être appelé par l'équipe nationale A, je fais mon show et j'ai déjà mon fan club. Certains y partent et reviennent 1 mois, 2 mois après, appelés par l'équipe nationale, ils ont déjà leur fan club dans les tribunes de Kégué. Donc voilà un peu peut-être tout cela qui ne milite pas ce que ils évoluent comme il se doit. Je pense que il faut viser encore plus haut, ne pas faire parfois le choix simplement du départ ou le choix de l'argent, mais faire le choix de carrière, chercher à marquer son temps, chercher à rentrer dans l'histoire, ce qui manque parfois à nos compatriotes.
Voilà la réaction de Florent Kataka. Des commentaires, chers invités?
Moi, je partage son avis. Parce que j'avais dit ça auparavant, que les nôtres, ils se limitent au peu qu'ils ont. Si je prends l'exemple de Alexis Romao. Romao était à Grenoble.
Grenoble, oui.
Maintenant, quand Marseille l'a appelé, il avait dit s'il doit venir à Marseille et ne pas jouer, il préfère rester à Grenoble. Oui. Et c'est comme ça ils ont arrangé son contrat pour qu'il ne soit pas au banc. Il est venu, il a joué.
Il a joué, oui.
Il a joué. Et Romao continue par jouer.
Jusqu'à aujourd'hui.
Des gens sont venus le trouver et ils ont raccroché. Il continue par jouer. C'est que les nôtres se contentent du peu qu'ils ont. Ils ne veulent pas la compétition. J'avais donné un exemple. Quelqu'un qui est au banc quelque part, il se contente du salaire qu'il a. Il ne veut plus aller challenger ailleurs.
Alors qu'il est jeune.
Alors qu'il est jeune. Vous voyez. Donc, il y a aussi le côté mentalité ou bien de culture qu'il a.
Évoqué oui.
Ça c'est quelque chose qui nous suit au fait. La culture a un impact sur la mentalité et c'est ça le Togolais. Par exemple, les agents n'aiment pas trop traiter avec les Togolais. Parce que la mentalité du Togolais... Je donne l'exemple de... Quand Fiao Kofi, quand il a commencé par faire le management, il a traité avec Kodjo Dumasese, il a traité avec Eniful Kobina, il a traité avec Segbefia et Liklim. Après ça, il n'a plus traité avec un autre Togolais.
Oui, oui.
Jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous allez lui poser la question, il aura des arguments, c'est-à-dire il aura des réponses
standard,
similaires à ça.
Standard. Il ne va pas vous dire le fond de la chose.
Voilà. Oui, donc nous avons aussi notre culture ou bien notre truc là qui nous suit aussi.
Oui, Elema Tipoué.
Oui, la culture nous suit, surtout dans le football. Il faut reconnaître que les grands clubs ont une généalogie de tous les pays. Quand on prend un joueur, par exemple, Kevin Dinke peut performer. Hein. On prend un joueur, par exemple, un Brésilien, un Espagnol. On sait que les Brésiliens sont techniques. Donc, pour un poste d'ailier, on vous présente un Brésilien, un Espagnol. Tu préfères un Brésilien. Maintenant, par rapport à la vision du club, vous voulez signer un joueur performant, technique, sur 8-9 ans. Il va préférer là l'Espagnol parce qu'il sait que les Brésiliens, dans la généalogie, c'est des gens qui n'ont pas une hygiène de vie assez saine sportivement. Peut-être 2-3 ans, il va lâcher. Donc, c'est des indicateurs aujourd'hui qui ne pèsent pas lourd dans la balance quand il s'agit d'un Togolais.
Oui, merci Edem Atipou et Paul Yeboah. Oui.
Mais moi, je peux dire, comme je disais, que c'est aussi un peu l'image de l'équipe nationale. Aujourd'hui, on voit Bradley Barcola et Cody Gakpo qui font un très bon boulot dans leur club. Parce qu'ils jouent déjà, Bradley qui joue pour l'équipe de France. Imaginons si Bradley avait choisi l'équipe nationale. Moi, je ne le vois plus.
Eux ne sont pas Togolais. Ils sont Togolais.
Ils sont d'origine Togolais. Son frère aîné est Togolais.
Voilà. Je ne refuse pas. Ils ne sont pas Togolais. Il joue pour la France, il est français. Il joue pour la Hollande, il est hollandais.
C'est leur nationalité sportive.
Il avait le choix. Exactement. C'est leur nationalité sportive. Ils avaient le choix de choisir. Ils avaient le choix entre le Togo.
Tout ça là, je ne refuse pas.
On ne les considère pas comme Togolais.
Il a été éduqué en tant que français ou en tant que néerlandais.
Comme son frère Bakola Malcolm, qui a choisi le Togo.
Quand il vient en équipe nationale togolaise, tu ne vois pas que son comportement est différent des autres togolais.
Mais moi, je ne parle pas de comportement.
On parle en termes de performance.
Il a quel passeport?
Il a les deux passeports.
Voilà. Il a les deux passeports. Il joue quel pays?
Il joue pour la France.
Celui qui a choisi le Togo, là, il évolue toujours.
C'est justement la raison pour laquelle...
C'est pourquoi j'ai dit, lui, il est français. C'est pourquoi il évolue.
Il est français, c'est pour ça qu'il évolue.
Je pense que
c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on voulait faire ce distinguo. Si Bradley Barcola avait signé comme Cody Gakpo, avait signé pour la nationalité togolaise, est-ce qu'ils auront le même éclat sportif en club actuellement?
Vous venez de le dire, Romawa a le même éclat. Donc c'est encore possible. Mais moi, ce que moi je dirais, il ne faut pas qu'on aventure sur ce qui n'est pas sur la table. Il ne joue pas pour le Togo. Si on parle de lui, c'est comme si on perd le temps ou bien on néglige les autres. Parlons de ceux qui sont là. Parlons de nos joueurs. Pourquoi ça ne marche pas pour eux? Parce que Romao, c'est un exemple comme l'autre, mais ça marche. Il n'est pas le seul aussi. Et comme vient de le dire le manager, ou bien coach Kokou dit qu'il n'y a pas un manager au Togo.
Il n'atteint pas trois.
Ils ont un agent de joueur, voilà. Et d'abord, c'est l'image. Sur le plan international, le football togolais n'a pas une bonne image. Ça, il faudrait qu'on ait le courage de le dire. Et le confrère journaliste aussi a touché un autre point, qui est l'aspect de communication. C'est maintenant qu'on sent un peu la fédération qui communique bien les choses. Bon, voilà. C'est des choses-là qui peuvent attirer les recruteurs à venir au Togo. Il faut d'abord côté technique et côté image. Et là, ça, je pense que ça peut aller.
Manu Kuramane, J.D. Manu Kuramane.
Les ébauches de solutions. Sans proposer des solutions. C'est le rappel.
Ils ont voulu que je tombe, c'est Dieu qui fait ma force. Ils ont déclaré la guerre, oh, c'est Dieu qui fait ma force. Ils ont voulu que je tombe, c'est Dieu qui fait ma force.
Nous avons tout au long de nos débats tenté de trouver les causes de cette absence ou de non-présence des footballeurs togolais sur le marché des transferts internationaux. Maintenant, qu'est-ce qui peut être fait? Quelles sont les approches de solutions? Avant de revenir à vous en studio, on va faire le contraire de ce que nous avions fait jusqu'à présent. On va écouter Flora Kataka.
Elle ne peut pas être magique. C'est une solution de bâtisseur. Il faut construire un projet. Il faut construire un programme. Il faut une vision beaucoup plus pointue qu'il faut partager. Mais cette vision-là, elle doit être globale et globalisante. Il est importantissime que nous revoyons notre manière de faire. Si vous êtes amené à poser ces questions, c'est que vous-même, vous avez fait le constat qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il faut sûrement revoir nos méthodes. C'est quoi notre objectif? Est-ce que nous cherchons à cocher des cases pour dire, OK, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ou bien nous cherchons à impacter véritablement le football national? C'est pas la même chose. Il y a des actes que nous allons poser qui montreront que oui, il y a du football au Togo, simplement. Pas plus. Et il y a des actes que nous allons poser qui auront un impact pour la génération actuelle, la côte du Togo au niveau international, l'image du Togo, et qui va profiter à court, à moyen et même à long terme à tous nos compatriotes. Je suppose qu'un joueur togolais, si le Togo gagne la CAN aujourd'hui, le joueur togolais qui n'a jamais mis pied au Togo, qui est né en Europe, on va lui parler de son pays. Ah, tu es togolais. Ah, mais les Togolais, ils sont bons, hein. Et on va le regarder autrement aussi dans son club. C'est comme s'il a participé à gagner cette CAN. Je pense que toute la question, elle est là-bas. Revoir notre culture du football, reconditionner les choses, reformater pour reprogrammer un logiciel qui marche. Et ce logiciel-là, c'est encore une fois une bonne formation de base. Et avant d'arriver à cette formation de base-là, aux joueurs, il faut bien former les éducateurs à travers un véritable programme de formation à longue durée et de manière continuelle, et être beaucoup plus sérieux sur un certain nombre d'éléments. Enfermer, refermer un peu le championnat local pour favoriser beaucoup plus les locaux et mettre en place un certain nombre de mécanismes pour que ce championnat-là soit attrayant. Et lorsque nous allons mettre tout cela en place, revoir la manière dont on gère nos équipes nationales de jeunes, je suis persuadé que lorsque nous allons commencer par participer aux phases internationales, la phase finale donc des coupes et des championnats donc de jeunes, U17, U20, nous allons commencer par transférer des joueurs qui sont formés au Togo, et c'est eux qui viendront continuer l'histoire. Merci beaucoup.
Merci beaucoup Florent Kataka, qui devait être avec nous dans les studios, mais à cause de son calendrier, il est intervenu par téléphone. Voici donc ses approches de solution. On va commencer par le coach Koubada Kader ou Abdouakil, voilà. Je ne vais pas me tromper, sinon ouais, il sera fâché. Les approches de solution, on a évoqué en long et en large tous les problèmes, on les a abordés sur tous les angles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, moi je dirais que il faut que l'État s'implique. Oui, parce que depuis là, l'État a fait son effort, mais il faudrait qu'il s'implique encore plus pour pouvoir d'abord écouter les responsables directs du football togolais et savoir comment les accompagner. Parce qu'on ne peut rien faire dans le football sans les moyens. Le football aujourd'hui, c'est une profession où il faut investir et gagner demain. Merci.
Il faut investir aujourd'hui et gagner demain. Edem Matipoui.
Clairement qu'il faut, il faut aller à l'école de ceux qui font mieux. Il faut qu'on aille se faire former à l'extérieur pour vraiment redonner ces talents-là, reverser ces talents-là en termes de formation au Togo. La compétition des jeunes, c'est très important. Il faut aller véritablement à cette compétition. Et il faut que les équipes nationales, toutes catégories confondues, hommes, dames, performent. Parce que sans leur performance, on n'aura pas assez de coachs en termes de résonance au niveau international. Il faut que ces équipes-là performent aussi et que la formation des encadreurs, des entraîneurs, des agents, des journalistes, des communicants, c'est-à-dire tous les acteurs qui font partie de ce système de football, soient véritablement formés et que l'État s'implique en termes d'investissement, en termes de moyens et en termes d'infrastructures.
Parfait, Paul Yeboa.
Je vais rajouter ce que le journaliste a dit. Je pense qu'il va falloir organiser les championnats des jeunes, surtout des jeunes. Ça va nous permettre, premièrement, moi, agent, de vite voir les jeunes joueurs togolais. Et aussi, je pense qu'on ne joue plus les inter-écoles comme on jouait avant. Bon. Et j'espère que aussi au niveau des équipes nationales juniors, mettre des formateurs, pas des coachs, mais plutôt mettre des formateurs. Donc, et si on arrive à se qualifier, je pense qu'avec même aujourd'hui, si on voit le Bénin, aujourd'hui le Bénin U20 s'est qualifié pour la CAN l'année dernière. Et grâce à cette CAN, ils ont au moins 4 joueurs qui jouent en équipe nationale. Ah! Donc, il y a un suivi.
Il y a un suivi.
Voilà. Donc, et aussi, il y a même un joueur qui vient de signer en Suisse, qui a joué la CAN U20.
U20, oui.
Donc, c'est ce que moi, je pense que ça peut aider notre football.
Directeur Hidrakou.
Ouais, je pense qu'on doit revaloriser notre championnat. On doit investir dedans. S'il faut un budget présidentiel, il faut qu'on le fasse pour mettre de l'argent dans ce football. Pour aussi attirer d'autres joueurs des pays voisins.
Des bons joueurs.
Des bons joueurs.
Pas les has-beens
si
que nous avons actuellement.
Si on voit par exemple les Tchakéi, nos internationaux qui vont jouer à côté.
Oui.
Et mais les à côté aussi peuvent venir jouer chez nous s'il y a de l'argent dans notre championnat.
C'est ça.
Et ça va rehausser le niveau du championnat. Vous allez voir que nos joueurs aussi seront performants. Et maintenant, quand on organise les équipes nationales, ça donnera. Maintenant, tout faire pour avoir un championnat de jeunes. La formation très importante aussi des éducateurs.
Oui.
Des éducateurs avant les entraîneurs.
Avant les entraîneurs.
Oui.
Voilà, chers invités, notre émission tire à sa fin. Avant de vous laisser partir, un dernier tour de table. Je vais commencer par le DT de l'Académie Planète Foot, Monsieur Hedjilakbo.
Ouais, je vous remercie pour cette opportunité que la radio Ahuevi nous a donnée pour pouvoir parler du football togolais et toucher du point ce qui ne va pas. Et amener des apports de solutions. Et je pense que les gens sont là, ils nous ont écoutés. Ceux qui et sont les faiseurs vont réagir pour que ça change.
Absolument, il faut que ça change. Paul Yeboa, il est agent de joueur FIFA.
Oui.
Ah, il faut le préciser. Oui, il faut le préciser.
Je remercie Arui de m'avoir invité. C'est la première fois que une radio m'invite. Et
ah bon?
Ouais.
Arui est premier dans beaucoup de choses. Non, sauf pour l'agent.
Je suis très content. Oui, je viens d'apprendre que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour le championnat scolaire. Moi, je m'intéresse plus du championnat des jeunes. Peut-être que la communication n'est pas encore assez sur ça. Et je félicite ça au moins. Et j'espère que cette émission là-bas sera continuelle pour que nous puissions trouver des solutions.
Merci beaucoup, Paul Yeboah de Matipoué, journaliste sportif.
Merci pour l'invitation. Ça a été un débat très enrichissant. On est sorti du sentier battu des émissions sportives où on parle de des clubs, on parle des résultats. Oui. Je pense que cette émission a été plus enrichissant. Il faut des panels comme ça pour pouvoir réfléchir autrement sur le football, en tout cas. Vivement que cela ne tombe dans des oreilles de sourds pour qu'on puisse également continuer par avancer malgré tout en attendant la perfection. Merci.
Merci beaucoup, coach Koubadia Touré Wakil.
Oui, je salue les autorités sportives directement le football. Et je souhaiterais qu'il nous écoute et qu'il fasse ce qu'il faut faire pour que les choses avancent. Merci.
Merci beaucoup, chers amis. Certes, les footballeurs togolais sont peu présents sur le marché des transferts et notamment lors de ce dernier mercato hivernal. Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, comme nous l'avons vu, qui vont du manque de visibilité sur la scène internationale à une carence de niveau en passant par le manque d'ambition, le manque de championnat de jeunes et l'intérêt moindre des clubs européens pour ces joueurs-là, etc. Cependant, il est important de noter que cela ne signifie pas que les joueurs togolais ne sont pas talentueux. Il y a plein de talents, mais force est de constater que le talent seul ne suffit pas et qu'il est important donc... Il est important de promouvoir le football togolais, de chercher les voies et les moyens à le promouvoir, à le rendre plus performant en se conformant aux normes standards et internationales à la matière, afin de permettre aux joueurs togolais de gagner en visibilité et de saisir les opportunités qui se présentent à eux. Tout n'est donc pas perdu, il y a toujours des espoirs pour le futur et certains joueurs togolais pourraient encore attirer l'attention des clubs européens et autres. C'est sur ces notes d'espoir que prend fin Carrefour de ce jour. Merci donc de l'avoir suivi. Carrefour de ce jour est donc à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci à Charles Da Ernesto. Merci également à Miss Darlis qui m'ont aidé à le préparer. Je suis Tony Di à la présentation, à la mise en onde et à la technique à la fois. À très bientôt. Merci beaucoup.